On parie combien qu'elle va encore nous parler de cailloux préhistoriques.
Et si aujourd'hui nous abordions l'intrigant cas des haches polies en roche alpine du néolithique ?
Gagné ! Faites pleuvoir les billets !
Ces lames de hache à la belle couleur verte sont présentes aussi bien dans le Diois qu'en Bretagne ou en Suède. Pourtant, elles viennent toutes du même endroit, les Alpes italiennes. C'est-à-dire qu'elles sont trouvées dans des territoires à plus de 1700 km de leur point d'origine. Comment ces haches ont-elles voyagé si loin à une époque où le moyen de transport principal se résumait à deux pieds ? Et pourquoi ? D'abord, le fait que ces
cailloux préhistoriques,
que ces objets néolithiques voyageurs aient la forme d'une hache en pierre polie n'est pas anodin du tout. Le nom même que les archéologues donnent à la période, le néolithique, signifie nouvelle pierre. Parce que les populations de cette ère ne se contentent plus de silex taillé, comme leurs ancêtres, mais utilisent aussi des pierres polies. Alors non, ils n'apprennent pas aux rochers à dire bonjour à la dame, mais ils ont mis au point une technique pour rendre leurs outils plus résistants, le polissage. En gros, ils façonnent puis frottent la pierre jusqu'à ce qu'elle soit lisse. La hache est alors le principal ustensile, la grande star de la boîte à outils du néolithique. Les populations s'en servent pour couper du bois, défricher des terrains ou pour retourner la terre. Forcément, le choix d'une pierre solide, tenace pour fabriquer sa hache multi-usage devient essentiel. Ce serait quand même ballot de passer autant d'heures à la polir pour la briser dès le premier choc. Et justement, la roche alpine verte mentionnée plus tôt est particulièrement résistante. Certains archéologues, pour l'identifier, parlent de jadéite parce que sa couleur d'un beau vert sombre évoque le jade. Mais je vais me faire allumer par le premier géologue qui passe si je reprends ce terme inexact. Même s'ils se ressemblent énormément, plusieurs types de pierres vertes dans les Alpes sont choisies pour faire des haches polies. Donc, pour maintenir la paix dans les ménages scientifiques, je vais continuer d'évoquer des
cailloux préhistoriques,
des roches alpines vertes. Mais est-ce seulement la résistance de cette matière qui intéressait tant les peuples néolithiques, jusqu'à ceux du Diois, de Bretagne ou de Suède ? Non, bien sûr. Les Alpes et bien d'autres gisements regorgent de roches au moins aussi solides. Il y a manifestement une autre explication à sa large diffusion. D'autant que, si l'on examine la collection de haches vertes conservées au musée de Die, on remarque aisément qu'il y en a au moins deux sortes. Les plus petites sont usées jusqu'au talon. Elles ont été utilisées pour divers travaux jusqu'au bout, très littéralement. Par contre, les plus grandes, qui vont jusqu'à 35 cm, sont complètement intactes. Leur forme même, fine et allongée, les rend fragiles et complètement inutiles. Et ça, ça pose question. Pourquoi mettre des centaines d'heures de façonnage et de polissage dans de grandes haches vertes qui ne servent à rien ? Factuellement, parce qu'elles devaient avoir une haute valeur symbolique due à leur forme, à leur matière et à leur teinte. La première hypothèse en faisait des objets d'apparat, des sortes de Rolex préhistoriques.
Tout le monde a une Rolex, hein.
Sauf que le contexte de découverte de la plupart de ces grandes haches vertes en France et en Europe de l'Ouest réfute totalement cette théorie. Si c'était vraiment un objet pour crâner, pourquoi ne les retrouve-t-on pas dans les villages ou dans les tombes, mais plutôt en pleine cambrousse ? Certains archéologues lient donc ces grandes haches vertes à un système de croyances qui nous échappe, et ils leur attribuent une possible fonction d'offrande. La haute valeur symbolique de ces haches expliquerait donc un tout petit peu plus sa large diffusion hors des Alpes. Mais comment sont-elles arrivées jusqu'à Die ou en Suède ? Là, ça devient particulièrement intéressant. Figurez-vous que toute une chaîne de production était en place, et que le Diwa avait une place centrale dans ce système. Du côté des Alpes italiennes, dans le Piémont, des gisements de roches vertes étaient exploités par des peuples vivant à leurs pieds. Ils organisaient de véritables expéditions pour les repérer et détacher des blocs entiers en réchauffant la pierre et en la faisant éclater à l'aide de percuteurs. Puis, ils ramenaient ces blocs dans leur village. Là, une partie des blocs pouvait être travaillée sur place ou juste dégrossie pour être acheminée ailleurs, en général vers l'ouest. Les roches vertes étaient ensuite transportées par les cols alpins les plus bas. Le Diwa, par exemple, se situe juste au débouché d'un de ces cols. Et je vous le donne en mille, il y avait d'importants sites de taille de roches vertes, notamment du côté des terres blanches à Manglon. C'est-à-dire que les Diwas du Néolithique recevaient des cargaisons de roches vertes, puis les façonnaient et les polissaient en lames de hache, possiblement destinées à circuler ensuite hors de la vallée du Rhône. Et pourquoi pas jusqu'au Morbihan ou en Suède. Si ces distances peuvent nous étonner, elles surprennent moins les archéologues. Le Néolithique est la première période où commencent vraiment à circuler les biens en Europe. Par contre, l'organisation manifestement structurée de la production de ces haches vertes, répartie entre plusieurs populations d'un côté et de l'autre des Alpes, elle a de quoi impressionner. Et tout ça pour des...
cailloux préhistoriques !
C'est fini, oui ! Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le Musée de Die.